J'aimerais parler ce matin sur le déclin de Saül, dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité et cela lui déplut beaucoup. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Connaît Saül parce qu'il a été choisi comme roi. Dieu a vu en lui de bonnes choses. Il était humble, il était bien disposé à servir, il avait des qualités de chef et Dieu lui a confié la royauté. C'est le plus haut service qui existe en Israël, c'est d'être roi. Mais la Bible nous montre que Saül n'a pas su gérer les bénédictions que Dieu avait mises sur sa vie. Il y avait des grâces. Il était appelé à être roi et il y avait des bénédictions sur sa famille parce que Dieu avait dit « C'est ton fils qui règnera après toi ». Il y avait donc des promesses sur sa vie. On se rend compte que le pouvoir lui est monté à la tête et qu'il a changé. Il n'était plus l'humble Saül du départ, mais il a commencé à prendre des initiatives qui sont en dehors du cadre qui est réservé au roi. Par exemple, il a commencé à désobéir à Dieu en offrant, en se permettant d'offrir des sacrifices sans la présence du sacrificateur, alors qu'il savait que dans la loi c'est interdit, mais il s'est pris le droit de faire des choses que Dieu condamne. À ce moment-là, Dieu a commencé à choisir un autre homme qui s'appelle David, et Saül ne va faire que décliner. Il va aller de déclin en déclin jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'il n'a jamais saisi la main de Dieu qui l'appelait à la repentance. Il va tomber si bas qu'il va tout perdre. Mais je pense que l'exemple de David, c'est un avertissement pour notre âme, car nous avons reçu des grâces, nous avons reçu des bénédictions, nous sommes enfants de Dieu, nous avons tout reçu par Christ à la croix. Mais si nous ne veillons pas sur les merveilleux dons, les cadeaux qu'il nous a accordés, les grâces qu'il nous a faites, eh bien un croyant, même Saül qui était croyant, eh bien on peut décliner et s'éloigner de Dieu. Donc sa vie est un avertissement que chacun doit veiller sur son âme. Même un croyant qui est sorti du bourbier dans lequel il était avant de connaître le Seigneur, eh bien quelquefois quand il renie son Sauveur, il va retomber encore plus bas que ce qu'il était. Et on va le voir, c'est le cas de Saül. Car Saül est tombé encore plus bas que ce qu'il était avant. On va voir sa chute, en fait. Sa chute en 4 étapes. La première étape se trouve dans 1 Samuel, chapitre 18, les versets 5 à 9 que nous avons lus, où nous voyons que Saül est touché par David, qui est de plus en plus puissant. Donc on l'a dit, lui, il est sur le déclin. Et maintenant, Saül monte en puissance, il est de plus en plus apprécié. Et pourquoi est-ce qu'il apprécie tant David? C'est parce qu'il voit chez lui ce qu'il a lui-même perdu. Saül avait l'onction pour être roi, mais il voit chez David l'onction maintenant, et chez lui, il ne la voit plus. Et aujourd'hui, les chants qu'on chante, c'est pour honorer David. David a tué ses 10 000. Autrefois, c'était des chants pour Saül, et maintenant, c'est pour David. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment regardons-nous les autres quand ils ont du succès? Car Saül voit que David a du succès, il voit que Dieu le bénit, mais au lieu de bénir Dieu pour son œuvre, il va être jaloux, il va être irrité. Comment regardons-nous le succès des autres? Ça détermine aussi notre attitude spirituelle. Quand les autres font mieux que nous, quand les autres parlent mieux que nous, quand les autres chantent mieux, quand les autres sont plus efficaces, quand ils arrivent à faire mieux les choses, comment les regardons-nous? Est-ce que nous sommes jaloux ou est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour les dons et les talents qu'il a donnés? C'est celle-là qu'il faut choisir. Bénissons le Seigneur et ne tombons pas comme Saül dans la jalousie. Alors que Dieu a béni, Dieu a donné des dons, des talents, il fallait le considérer, il fallait l'accepter, et il fallait accepter que maintenant c'est David qui sera le prochain roi. Mais il n'arrivait pas à se réjouir. Le verset 8 précise que Saül fut très irrité. Quelle irritation! La jalousie produit l'irritation. On retrouve cette même irritation chez Caïn. Et ça n'est pas étonnant, parce qu'en méditant sur ce passage, en fait, Caïn et Saül sont dans le même esprit. C'est l'esprit des gens qui ont la forme des choses. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. Caïn, c'était le frère d'Abel. Il a offert un sacrifice à Dieu. Abel a offert un sacrifice à Dieu. Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn. Et Caïn dit, mais pourquoi mon sacrifice? Mais son cœur n'était pas droit devant Dieu. Saül, c'est pareil. Il peut offrir des sacrifices à Dieu. Pour nous, ça sera des louanges, des chants, de l'adoration, de la prière. Mais son cœur n'est pas droit devant Dieu. Il ne peut pas être agréé de Dieu, ce sacrifice. Saül est dans le même esprit que Caïn, c'est-à-dire ceux qui sont superficiels, qui n'ont pas les profondeurs de Dieu. Il y a un texte dans 1 Jean chapitre 2, verset 19, qui dit ceci, « Ils sont sortis du milieu de nous. » Il parle ici de l'Église. Il y avait donc dans l'Église des gens qui s'étaient infiltrés, qui n'étaient pas dans l'Esprit de Dieu. Ils étaient dans l'esprit de Caïn. Ils étaient dans l'esprit du monde. Ils étaient dans l'esprit de la rébellion, de la révolte. Ils sont sortis du milieu de nous, car ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ils sont d'un autre esprit. Saül est d'un autre esprit, Caïn est d'un autre esprit. Et aujourd'hui, il y en a qui sont d'un autre esprit. Et il faut que cela soit dévoilé. Ici, ça a été démasqué, dévoilé. Saül voit que la royauté lui échappe. Mais la royauté n'était pas un dû, c'était un don. Dieu lui avait fait grâce. Mais ce que Dieu donne, si nous ne le faisons pas fructifier, il peut le reprendre. Dieu est libre de donner. Dieu est libre de reprendre ce qu'il a donné. Dieu fait ce qu'il veut. Et il a repris à Saül le don qu'il lui avait donné. Il lui a laissé ce titre de roi, mais il a perdu l'onction. Et son cœur n'a pas changé, son cœur est resté dur. Il aurait pu se repentir à maintes reprises et demander pardon à Dieu et revenir dans l'humilité. Et en fait, avec le temps, en fait, il est sur la pente du déclin, mais c'est une pente tellement douce qu'il ne se rend pas compte qu'il va vers la mort spirituelle. Et c'est vrai pour nous, frères et sœurs, nous devons veiller parce qu'il y a une pente de déclin qui existe même pour les croyants. Des croyants qui ont bien commencé dans la vie, qui ont accepté Christ, qui servent de tout leur cœur, qui aiment prier, quand il y a des réunions de prière, voilà, ils sont là, ils prient, ils s'expriment devant Dieu, et puis à la maison, ils lisent la Bible, ils sont motivés pour les choses de Dieu. Mais petit à petit, des événements surviennent, des difficultés, et il y a une pente de déclin qui s'opère. On n'aime plus tellement la prière, on n'aime plus tellement lire la Bible, on ne vient plus au rassemblement, et on est sur le déclin. C'est la pente de Saül, c'est une pente très 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 douce, mais qui va vers le déclin. Cette pente est tellement faible qu'on ne s'en rend pas compte. Vous voyez, Samson, un autre exemple. Samson qui aimait Dieu, qui servait Dieu de tout son cœur, mais qui était sur le déclin. Il était sur le déclin spirituellement. Car il a désobéi à Dieu en révélant son secret. Il vivait dans certains péchés avec des femmes qu'il n'avait pas traitées, qu'il n'avait pas réglées au plus profond de lui. Il était sur le déclin. Et lorsque les Philistins ont rasé ses cheveux, donc sa dernière femme, Delila, lui a rasé les cheveux, les Philistins sont venus pour l'arrêter, il ne se rendait pas compte qu'il était dans le déclin. Car il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Erreur. Il ne s'en est pas tiré, car l'Éternel s'était retiré de lui. Il était sur le déclin spirituel. Donc c'est quelque chose que nous ne voyons pas venir, qui est insidieux, qui est sournois. C'est arrivé à Saül, c'est arrivé à Samson, et c'est arrivé à bien des croyants qui se sont crus inattaquables, intouchables, qui ont marché Oui, mais si nous ne veillons pas, nous pouvons tout perdre. Et c'est la réalité spirituelle que vit Saül. Deuxième étape, donc, après l'irritation, la haine qui se développe dans son cœur vis-à-vis de David, qui devient de plus en plus puissant, il est jaloux. Deuxième étape, c'est un mauvais esprit qui vient le tourmenter au verset 10. 1 Samuel 18, verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui, mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Hein, voilà une autre étape, c'est que le mauvais esprit le harcèle. Ce mauvais esprit, déjà qu'il a des mauvais sentiments dans son cœur, eh bien, c'est facile pour le mauvais esprit de le pousser au mal. Personne ne le voyait en apparence parce que le roi donnait toujours l'apparence de soutenir David, mais en réalité, dans son cœur, ce n'était plus le cas. Et ça, c'est grave. Il y a un verset dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, qui dit ceci, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Mais on dirait que Saül, il fait tout le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Il s'est irrité, il a laissé la colère grandir dans son cœur, il ne la remet pas à Dieu, il ne renonce pas à cette colère. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Saül ? Il est en train de donner accès au diable dans sa vie. Et c'est donc un mauvais esprit qui va venir le harceler jour après jour, le tourmenter, parce que lui-même refuse de confesser son péché. Il vit prisonnier de son péché, il s'entête dans son péché, et ça, c'est la voie du déclin. Ça devrait le faire réfléchir en se disant « ce que je vis n'est pas normal ». Moi qui suis croyant, pourquoi un mauvais esprit me harcèle ? Je devrais avoir l'autorité pour le chasser. Il n'a même pas l'autorité pour éloigner le mauvais esprit. Il ne l'a plus l'autorité parce qu'il est sur le déclin. Et ça, c'est la conséquence du péché. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, le péché, finalement, ce n'est pas si grave. C'est faux. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est toujours vrai, sur le plan spirituel, c'est déjà la mort, la séparation d'avec Dieu. On récolte toujours ce que l'on sème. Saül a semé la désobéissance, il a semé le mal, il est en train de récolter les fruits qui seront amers. Alors, on est étonné, peut-être certains sont troublés par cette formulation au verset 10, le mauvais esprit s'est dit « venant de Dieu ». Venant de Dieu. Et pourtant, Dieu l'a permis. Parce que Dieu dirige toutes choses. Et il a permis qu'un mauvais esprit harcèle Saül. Ça veut dire que Dieu a autorité sur tout. Et il peut permettre des situations pour tourmenter quelqu'un. Mais c'était dans le but que Saül se repente et reconnaisse qu'il y a un problème, qu'il ne doit pas continuer comme ça, et qu'il devrait revenir à Dieu. C'est en fait une main tendue pour lui dire « Arrête, tu fais fausse route ». Dieu a permis cela, et ce que je remarque, c'est que Saül n'a aucun pouvoir sur ce mauvais esprit, mais il va devoir demander à David, et c'est paradoxal parce que David, c'est son ennemi. Mais c'est David qui, en jouant de la musique, va permettre que le mauvais esprit s'éloigne. Et pourtant, Saül n'aime pas David. Et Dieu a permis que ce soit par David que Saül soit apaisé. Vous voyez comment Dieu fait les choses ? Il prend Saül à contre-pied. Il lui dit, tu vois, tu n'aimes pas Saül. Toi, Saül, tu n'aimes pas David. Mais tu vois, c'est par David que tu vas être apaisé et que le mauvais esprit s'en va. Saül, donc, est obligé de reconnaître que son propre, celui qu'il considère comme son ennemi, mais qui n'est pas son ennemi, parce que David l'aime, David a toujours soutenu Saül jusqu'au bout. Celui qu'il considère comme son ennemi lui fait du bien. On se rend compte ici, dans ce verset, bien avant la venue de Jésus, que David est en train de vivre l'Évangile. Quand Jésus dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. » Il sent que Saül ne le bénit pas et qu'il le hait dans son cœur. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et Saül bénéficie de l'aide de David, en fait, et David a le cœur pour aider ce roi en plein déclin. David est tellement aveuglé, vous voyez, plutôt Saül est tellement aveuglé qu'il ne va pas comprendre que David est un instrument entre les mains de Dieu pour le bénir. Et c'est ça, quand on persévère dans le péché, on devient aveugle. On voit le mal où est le bien et on voit le bien où c'est mal. On est inversé. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des gens qui deviennent violents. Vous voyez, Saül, il était tellement sous l'influence de ce mauvais esprit qu'il a pris sa lance et il a voulu tuer. C'est de la violence. Pourquoi est-ce que des parents frappent leurs enfants ou un conjoint va frapper son épouse ou un collègue va se battre avec un collègue de travail? Pourquoi la violence? Parce que dans le cœur, il y a des sentiments qui n'ont pas été abandonnés à Dieu. Et à un moment donné, ça va se traduire dans de la violence. Et ça devrait alerter Saül de dire « mais il y a un problème dans ma vie. Ce que je fais, ce n'est pas normal. Je suis en train de vouloir tuer quelqu'un qui fait le bien. » Ça devrait l'arrêter, lui dire. « Il y a un problème dans ma vie. » Vous voyez, la nature humaine, elle est déjà tellement poussée au mal que c'est facile pour le mauvais esprit de dire à Saül « allez, tue-le maintenant. Débarrasse-toi de David. » Il le pousse à faire le mal. Saül sait que l'Éternel s'est retiré de lui et là, il est angoissé. Et il vit un autre paradoxe au verset 13. Alors que David, c'est le dernier qui peut le soulager, il a tellement peur de l'onction qui est sur lui qu'il est contraint de l'éloigner. Vous voyez, il vit dans un... Il a besoin de lui pour le soulager, mais il préfère encore l'éloigner parce qu'il craint l'onction qui est sur sa vie. Vous voyez, le drame qu'il vit, c'est catastrophique quand on est sur le déclin. Alors il l'envoie au combat et il se dit certainement il mourra par la main des Philistins. Mais non, ça ne règle pas son problème. Il voit les problèmes chez David, mais c'est lui qui a des problèmes. C'est comme Jésus qui dit aux pharisiens, mais vous voyez la paille dans l'œil de votre voisin, mais vous ne voyez pas la poutre qui est dans votre œil. Quand on est dans le péché, on est aveuglé, on ne voit même plus la main de Dieu, on ne voit plus que le mal. Donc Saül a peur de David. Et c'est vrai qu'il juge mal David, et parfois nous serons mal jugés, nous aussi. Nous serons mal jugés, peut-être quelqu'un vous fera même du mal. Je discutais avec une personne qui me disait, au travail c'est dur, à mon mari, ils lui ont enlevé son poste, et ils l'ont mis au placard, ils l'ont mis de côté, ils ne veulent plus se servir de lui, ça fait mal. Et on est blessé, on est mal jugé, comme Saül juge mal David. Mais je remarque une chose, c'est que malgré tous les mauvais jugements qui sont sur la vie de David, ça n'empêche pas que David conserve l'onction et la bénédiction de Dieu va l'accompagner partout. Et ça, c'est une grâce. Ça veut dire que même si on est maltraité, malmené, eh bien, nous conservons les privilèges des enfants de Dieu. Et le peuple ne s'y trompe pas, regardez la fin du verset, parce que Israël et Juda aimaient David. Le peuple ne se trompe pas. Il voit bien que David a l'onction et que Saül ne l'a plus. Et ça, on le ressent quand quelqu'un est en communion avec Dieu, il attire à lui. Mais quand quelqu'un est comme Saül, qu'il est dans l'amertume, qu'il est dans le rejet, dans la méchanceté, il est en train de créer le vide autour de lui. C'est ce qui va se passer. Petit à petit, en fait, Saül va être isolé. Et David va rassembler autour de lui des forces vives. C'est comme ça que ça va se passer dans toute la suite du récit. Et si on veut faire la volonté de Dieu, c'est parfois difficile. Certains vont vous rejeter, oui, comme Saül a rejeté David. Mais vous trouverez aussi des gens qui vont vous soutenir et vous aimer, car le peuple aimait et soutenait David. Donc, il y aura toujours cette ambivalence. Et il ne faut pas le craindre. C'est ainsi que les choses avancent. Même spirituellement, il y a des combats qui sont là et que David va saisir. Troisième étape du déclin, c'est le verset 20. On voit ici les pièges maintenant que Saül va mettre sur la route de David. Michal, fille de Saül, aima David, on en informa Saül, et la chose lui convint. Il se disait, « Je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. » Et Saül dit à David pour la seconde fois, « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. » En fait, il a un discours pour honorer David, mais dans son cœur, il se dit, « Je vais lui demander une dot telle qu'il va mourir par les Philistins. » Vous voyez le piège. Alors, il accepte que sa fille Michal devienne l'épouse de David, mais pour un piège. C'est triste de voir comment Saül se sert de ses enfants pour piéger David. Arriver à se servir de ses enfants. Il se sert de Jonathan pour qu'il devienne un ennemi de David. Mais ça ne marche pas. David et Jonathan sont restés amis. Jonathan est resté loyal jusqu'au bout. Il a voulu détourner Jonathan de David. Il a voulu faire de sa fille comme un instrument pour piéger David. Ça, c'est de la manipulation. Il y a certains qui manipulent comme ça. Ils utilisent même leur propre famille pour atteindre d'autres personnes. C'est grave. Alors, David dit, mais comment, moi je ne suis pas digne du choix du roi. Le roi va me faire gendre. Mais il ne voit pas la méchanceté, le mal, le piège, en fait. Certains vous tendent un piège. Mais c'est dit dans Psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Donc Saül est en train de préparer un piège, alors que dans ses paroles, il dit « Tu vas aujourd'hui devenir mon... » Il a des paroles de paix, il a des paroles de réconciliation, mais par derrière, il tend un piège. Et Saül, pour arriver à ses fins, va détruire sa propre famille. Vous voyez comme on est aveuglé quand on suit la voie du mal. Et en fait, tout le mal qu'il va vouloir faire à David, il va le faire dans sa propre famille et il va retourner sa propre famille contre lui. Car Michal va continuer à aimer David jusqu'au bout. Jonathan va rester fidèle à David. Il ne va pas réussir à les détourner. Et c'est ça. Quand on cultive l'amertume et qu'on manipule, eh bien, à la maison, toujours on critique l'un, on critique l'autre, on critique les ministères, on se moque de l'un, on se moque de l'autre. Eh bien, ça déteint sur les enfants. Et les enfants, ils ne veulent plus du Seigneur parce qu'ils voient qu'on se moque des autres et ils voient de l'hypocrisie. Et ça ne peut pas plaire à Dieu, ces choses-là. C'est pourquoi nous devons veiller à avoir un comportement à la maison comme à l'Église qui soit digne de l'Évangile. Sinon, on produit la mort autour de nous. Saül est en train de semer la mort autour de lui par ses comportements, par ses agissements. Il sème la jalousie, la critique, la dureté. Et à ce moment-là, les enfants, ils sont contaminés par tous ces péchés qui sont là, qui les environnent. Mais je remarque que tous les pièges qu'il a faits, finalement, vont se retourner contre lui. Ce texte dit que Saül a préparé un piège pour que David meure par les Philistins. Et vous savez comment Saül est mort ? Il est mort par les Philistins. Il a voulu faire ça à David, mais c'est lui-même qui a vécu ce qu'il voulait faire à David. Vous voyez ? L'entêtement, ça a conduit vraiment au désastre. Un petit peu plus loin, donc Saül demande une dot de la mort de 100 Philistins. Alors il espérait que David allait mourir dans ce combat, et David en tue 200. Et 1 Samuel 18, verset 28, dit ceci, « Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins partaient en campagne, et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. » C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu le pas de la réconciliation. Saül a persévéré dans son péché, il n'a pas voulu se repentir, eh bien, la Bible dit qu'il est resté son ennemi, mais David ne voulait pas être son ennemi. Mais Saül devait changer. Quatrième et dernière étape, qui est la pire de toutes, c'est dans 1 Samuel 28, verset 4, puisque pendant ces 13 ans, la semaine dernière, on a parlé des 13 ans de désert de David, et là, on voit, pendant la même période, la déchéance, en fait, de Saül, qui va durer 13 ans. Et nous arrivons donc à la fin de ces 13 années. Et vous voyez qu'il est tombé si bas qu'il va aller consulter une voyante, ne sachant plus quoi faire. C'est un croyant, Saül. Il connaît Dieu, il connaît beaucoup de choses sur ce que Dieu veut, et il est en train de faire tout le contraire de ce que Dieu dit. 1 Samuel 18, verset 4. Ah non, plutôt 1 Samuel 28, pardon. 1 Samuel 28. Voilà. Verset 4. « Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'ourim, ni par les prophètes, et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait et comment il a retranché du pays tous ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Il y a là un paradoxe, car Saül a fait tous ses efforts pour tuer David sans pouvoir parvenir. Et maintenant, il va tenter un dernier acte de folie en se jetant lui-même dans un piège d'aller consulter une voyante. Il est tombé si bas qu'il fait le contraire de ce que la Bible prescrit. Et il le sait en tant que roi. D'ailleurs, le texte dit que lui-même, Saül, avait fait retrancher du pays tous les voyants. Et il sait que Dieu n'approuvera pas cela, que Dieu ne bénit pas cela. Et c'est comme il est toujours tourmenté par ce mauvais esprit. Vous savez, l'esprit le pousse à faire des mauvaises choses et finalement, il le dirige dans ce monde occulte. Et finalement, il a cédé à toutes ces tentations et l'Éternel ne lui répond plus. Il y a un moment donné, il s'est tellement égaré, éloigné, qu'il ne peut plus entendre distinctement Dieu. C'est déjà un signe qu'il y a un problème. Si on n'entend plus Dieu, si on sent qu'on s'est égaré, qu'on s'est éloigné, on revient, on recherche sa présence. Il n'a pas cette démarche. Il va consulter l'Urim, c'était des objets qu'avait le souverain sacrificateur. L'Urim et le Toumim, qui signifient lumière et perfection, qui servaient à discerner la volonté de Dieu. Dieu ne lui répond pas par ses moyens spirituels. Et puis les prophètes ne sont pas inspirés pour lui donner la parole de Dieu. Donc jusqu'au bout, en fait, c'est des avertissements pour lui dire « Saül, tu fais fausse route. Saül, tu t'égares. » Dieu lui dit « Arrête-toi, reviens, repens-toi. » Mais il est allé de l'autre côté, il a choisi d'aller consulter une voyante. Au lieu d'aller chercher Dieu de se repentir. Il sait que c'est mal et il le fait quand même. C'est plus fort que lui. En fait, il est en train de faire tout ce qu'il a condamné lui-même. Vous voyez, un chrétien qui a lâché la main du Seigneur, donc qui est sur la pente du déclin, comme Saül l'est, il peut retourner même à tout ce qu'il a vomi, et même finir encore plus bas que ce qu'il était avant. Samuel donc apparaît d'une manière surnaturelle. Si vous lisez la suite du récit, la femme pousse un cri, elle est surprise par cette apparition. Et les paroles de jugement viennent sur la bouche de Samuel en lui disant « C'est par la main des Philistins que tu périras, l'Éternel s'est retiré de toi. » Au psaume 57, verset 7, Il est dit, ils avaient tendu un filet sous mes pas, c'est ce que David a fait, plutôt, c'est ce que Saül a fait pour David. Il avait tendu un filet sous ses pas. Mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Là même où Saül voulait faire périr David, c'est là même qu'il est tombé dans cette fosse. Et le lendemain, effectivement, le chapitre suivant, chapitre 29, 30, eh bien, Saül meurt sur le champ de bataille. Donc la vie de Saül illustre bien la déchéance que peut connaître le croyant. Il a tout pour commencer, il a tout. Il avait tout, il avait le Saint-Esprit, il avait l'onction, il avait le service pour Dieu. Et puis il n'a pas su gérer l'autorité qu'il avait, les bénédictions, les grâces qu'il avait reçues. Il s'est cru au-dessus des autres, il a commencé à désobéir. Eh bien, ceci est un avertissement pour nous que nous devons veiller sur notre voie. Et si nous sommes sur la pente du déclin, de réagir et de ne pas laisser cette pente aller toujours plus bas. Parce que la fin est tragique, la fin est terrible. C'est un homme qui a fini en demandant, en mourant sur le champ de bataille et voyant qu'il était blessé, il a demandé à son propre soldat de se supprimer. Il a fini d'une manière misérable, alors qu'il était appelé à régner, alors qu'il était appelé à de grandes choses pour Dieu. Mais il n'a pas veillé, il a laissé des mauvais sentiments rentrer en lui. Et je remarque une chose, c'est qu'il a attiré sur lui la malédiction, non seulement sur lui, mais sur sa famille. Car un autre élément est souligné dans le passage, c'est que son fils Jonathan, qui n'était pour rien dans cette affaire, va accompagner son père jusqu'au bout, il va l'accompagner au combat, eh bien Jonathan va aussi mourir dans le combat. Et c'est par la faute de Saül. Donc Saül a attiré sur lui une malédiction, mais il a attiré sur lui une malédiction sur sa famille. C'est grave. La responsabilité de quelqu'un qui persévère dans le déclin. En s'opposant à David, il s'oppose à Dieu et il ne fait que s'éloigner de Dieu. Donc voilà, ce message, c'est un avertissement. Attention, le déclin de Saül, c'est un croyant qui a tout perdu, mais nous devons prier pour que Dieu nous garde dans sa main. J'aimerais prier un instant. Merci Seigneur pour ta parole qui est pleine de conseils, d'avertissements, pour nous garder sur le bon chemin, pour permettre Seigneur que nous soyons de ceux qui se repentent, de ceux qui réalisent quand on s'est égaré, quand on s'est détourné de la bonne voie, quand on s'est éloigné du bien. Et Seigneur, c'est toi qui ouvres les yeux et nous te prions Seigneur pour que ton esprit agisse avec toute cette liberté et ton onction, afin que si quelqu'un est en danger, bien qu'il soit averti, éclairé, afin de revenir, afin de ne pas s'éloigner, de ne pas s'égarer, et qu'au nom de Jésus, nous soyons toujours, Seigneur, fidèles dans ta présence. Dans le nom de Jésus, veuille nous garder, Seigneur, du mal, veuille nous garder dans ta main, dans tes voies, et de bénir tous ceux ou celles qui ont besoin encore de ta bénédiction, qui ont besoin encore d'un secours d'en haut, parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Amen.